Et oui, Israël entre dans une nouvelle phase de cette guerre et aimerait accélérer les discussions sur un cessez-le-feu. Alors, je fais un pas en avant, trois pas en arrière, et je parle pas d'Israël pour le coup, je parle du Hamas, bien évidemment, ainsi que sur la libération des otages, et ce, avant le début du Ramadan, le mois saint du calendrier musulman. Ça commence le 10 mars prochain. On écoute l'avis de Daniel Haber sur cette question.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise, et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin pour de nouvelles conversations. Alors, Israël vit une séquence relativement particulière en ce moment sur fond de négociations, de cessez-le-feu et puis la libération des otages. On parle beaucoup de le faire avant le Ramadan, en tout cas certaines choses avant le Ramadan. Pourquoi, Daniel Haber?
Alors, pourquoi avant le Ramadan? Parce qu'on pense qu'au moment du Ramadan, il va y avoir une colère supplémentaire qui sera issue d'un certain nombre, évidemment, du Hamas, des musulmans du monde entier, dans une séquence très particulière, avec le grand danger qu'il se passe des choses, des émeutes et des interventions militaires sur l'esplanade des mosquées autour de El-Aqsa, parce que c'est ce qui est prévu, et que ça fasse suite à ce qui est en train de se passer sous nos yeux. En même temps qu'il y a cette négociation sur les otages, il y a une pression médiatique sur Israël autour de la famine à Gaza. On accuse donc Israël de créer le chaos et de créer la famine. Et on a vu les émeutes de la faim, puisqu'il y a eu autour d'un camion de ravitaillement beaucoup de morts. Et évidemment, on met en cause les Israéliens dans ces morts sans que Israël puisse vraiment exprimer son avis. Donc il y a une très grosse pression médiatique au moment des négociations. Alors, donc vous posez une bonne question et il faut essayer de comprendre. Alors, bon, les opérations militaires continuent. Et dans Gaza, il y a moins de soldats, c'est beaucoup plus ciblé, ça intéresse le nord, le centre et le sud de Khan Younes, mais on sait que il y a Rafah qui sera la dernière séquence, et pour Israël, on s'y prépare. Mais avant ça, il y a cette négociation dont vous parlez. Or, on voit que dans cette négociation, les deux parties ont des objectifs radicalement différents. Il faut les rappeler. Le Hamas, au fond, il dit cessez le feu définitif, Israël se retire de Gaza et je rends tous les otages. Et beaucoup des gens en Occident qui proposent cette solution ne remarquent même pas que ce serait une victoire totale du Hamas. Et qui verrait ratifier la prise d'otage. Grâce à la prise d'otage, ils sauveraient leur présence à Gaza, parce que ça veut dire nous restons présents à Gaza, nous avons subi beaucoup de dommages, Gaza est détruit en grande partie, on a perdu beaucoup d'hommes, mais on est toujours à Gaza et on va repartir. Évidemment, Israël a une position qui est radicalement différente, et qui est d'une part que oui pour un cessez-le-feu, oui pour les otages, mais à condition que, au fond, le Hamas se rende. Au pire, on peut laisser passer, partir du Hamas quelques leaders, comme on le fit en 82 quand on laissa partir Arafat vers Tunis. Ils peuvent partir où ils veulent, à Alger ou au Qatar, mais la victoire sera très nette pour Israël. Le Hamas aura quitté. Parce que c'est ça qui compte, aura quitté Gaza. Donc on voit que cette négociation qui part de positions radicalement différentes, le Hamas utilise le temps en ce moment, et particulièrement cet objectif du Ramadan qui met pression sur Israël, sur le plan, pour faire sentir un certain nombre de pressions. Et ces pressions, elles viennent du Hamas, mais elles viennent aussi des alliés et des amis d'Israël. On voit la pression américaine, aussi parce qu'ils sont pressés, et on voit la pression française, en particulier celle du Quai d'Orsay. Alors, le Hamas, lui, il a deux cartes en main, les otages, mais il a aussi ce chaos à Gaza qu'il est en train de créer, et qui évidemment met pression sur Israël. Et donc c'est la guerre de communication en fait qui domine aujourd'hui cette négociation et qui fait partie de la négociation. Donc le Hamas victimise la population de Gaza et provoque un chaos. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne.
Justement, Daniel Weber, il y a eu l'incident enfin des camions d'aide humanitaire. On a vu la communauté internationale s'insurger, les médias internationaux sortir des chiffres qui sont les chiffres du groupe terroriste Hamas. Le Hamas est en train de gagner cette guerre de communication?
Il est certain que cette guerre de communication, elle est très difficile pour Israël, parce que au fond, le Hamas trouve des alliés en Occident même. C'est ça qui fait la force de la campagne du Hamas, de la campagne médiatique. C'est pas l'influence qu'elle peut avoir dans les populations musulmanes du monde entier qui sont déjà dans la haine anti-israélienne et anti-occidentale. C'est le relais par l'Occident qui compte pour Israël et qui est terrible. Alors, qui sont les alliés du Hamas? Les alliés objectifs du Hamas en Occident, c'est les médias que vous avez cités, en particulier ces grands médias de gauche que sont le New York Times, le Guardian et le Monde. Le Monde, dans son éditorial, disait Israël crée le chaos à Gaza à propos de l'émeute, alors que c'est évidemment le Hamas qui a manigancé ce piège pour créer le chaos. Donc oui, on renverse complètement la situation. Évidemment, il y a les groupes radicaux islamistes qui sont dispersés et présents en Occident, notamment en Europe et en France et évidemment aux États-Unis. Et puis vous avez tous ces partis d'extrême gauche occidentaux qui sont à la fois anti-occidentaux, anti-capitalistes et qui épousent les thèmes de l'islam autour de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Et tout ça, ça fait beaucoup de pression sur Israël, d'autant que même nos leaders, Biden et Macron, font des déclarations qui sont ambiguës et qui laissent penser qu'ils sont sensibles aux arguments du Hamas. C'est quand même assez terrible de voir ça. Donc ces déclarations sont donc irresponsables et ça met évidemment Israël sous forte pression.
Et alors, quelle position adopter pour Israël?
Que doit faire Israël? Résister. Résister, tenir bon, notamment face à ses propres amis. Expliquer sans cesse les enjeux, rappeler quand même aux Américains, qui je crois le comprennent, et aux Européens qui font semblant de ne pas comprendre, qu'une victoire du Hamas, même partielle, serait une défaite d'Israël, mais serait une défaite de tout l'Occident. Et donc ça, il faut essayer de le faire comprendre. Il faut que Israël reste uni, ce qui est le cas. Même si les chefs militaires israéliens ont des griefs vis-à-vis de Bibi, tout ça, ils sont rangés derrière Bibi pour soutenir la résistance aux pressions de nos propres amis. Et il faut surtout que cette phase actuelle, qui est cruciale, ce soit Israël qui la gagne. Si Israël la perd, c'est l'Occident qui la perd. Et si Israël gagne, il serait impossible par la suite de trouver des solutions pour Gaza, pour la question palestinienne, pour l'organisation du Proche et du Moyen-Orient. Et celui qui va gagner, c'est ça qu'il faut expliquer à nos alliés, c'est l'Iran. Donc si on veut faire gagner l'Iran, il faut empêcher Israël de mettre fin à la menace du Hamas. Et donc voilà un petit peu ce qui se démine. Le monde libre doit souhaiter la victoire d'Israël et il est très difficile de voir que ils ont du mal à le comprendre. Donc Israël doit continuer son processus de persuasion.
Il nous reste 1 minute, 1 minute 30, Daniel Haber. J'avais une question à vous poser. Les États-Unis et la France, vous le disiez, sont en train de critiquer un peu l'opération israélienne,
Oui,
leurs deux plus
oui, oui.
gros alliés.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que les déclarations à la fois des ministères affaires étrangères français et américains se rejoignent dans l'idée suivante. Il faut absolument pas que la Russie gagne. Parce que donc il faut soutenir l'Ukraine parce que si la Russie gagne, le coût de la perte de l'Ukraine sera faramineux. Ça nous coûtera beaucoup plus cher que de résister. Et ils n'arrivent pas à comprendre que c'est exactement la même chose avec le Hamas. C'est-à-dire que si le Hamas gagne, comme c'est l'équivalent de la Russie, c'est eux les agresseurs, et si le Hamas gagne, le coût pour l'Occident sera encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ils n'arrivent pas à faire ce parallèle intelligent entre l'Ukraine et Israël, qui sont les pays attaqués qui se défendent, et la Russie et le Hamas, qui sont les agresseurs et qui doivent payer le prix de leur agression. En tout cas, il ne faut pas que leur agression paye. Et donc, ils trouvent les mots intelligents pour défendre l'Ukraine et ils ne se rendent pas compte que ce sont les mêmes pour Israël. Et donc, c'est ce défaut de lucidité de l'Occident aujourd'hui. Précisément à cause de ces pressions intérieures, on sent que nos dirigeants occidentaux ont peur de la présence dans leur sur leur sol d'éléments radicaux radicalisés, etc. et de cet islamo-gauchisme qui est encore minoritaire en Occident, mais qui fait beaucoup de bruit et qui est relayé par ces médias dont on parle. Et donc dans les moments de campagne, puisque nous sommes dans la campagne américaine, nous sommes les campagnes bientôt les élections électorales, les Jeux Olympiques en France. Tout ça ne permet pas aux dirigeants occidentaux d'avoir de la lucidité. Je dirais qu'aujourd'hui, le seul qui voit clair, c'est Israël.
Eh bien, Daniel Abert, ce sont sur ces mots que nous quittons ces conversations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.